Merci d'être là. Alors, c'est important pour moi aujourd'hui de faire le point sur la vaccination avec notre opérateur de campagne qui est si importante. Mais avant ça, je veux revenir un petit peu sur la situation épidémiologique. En ce moment, on a l'impression que ça va bien, mais en réalité, il y a deux courbes et c'est trompeur. On a la courbe de la souche qu'on appelle la souche ancienne là, qui continue de descendre, puis on le voit tous les jours. Mais en dessous, on a quand même la courbe du variant britannique qui monte. Et dans la grande région de Montréal, le variant britannique, il monte rapidement. Et c'est ce qui fait, en fait, que l'annulation des deux, c'est ce qui fait qu'on est en ce moment sur un plateau. Puis aux États-Unis, je regardais encore ce matin, le CDC nous prévient de nous méfier si on a un plateau, parce que ça peut être vu comme une bonne nouvelle, mais peut-être que le contraire est à nos portes. Alors, on crible, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, on crible à présent tous nos cas positifs. On est entre 12 à 15 % de nos cas positifs qui sont des variants. Et si la semaine prochaine, ça monte encore, ça peut devenir très dangereux. Je pense qu'on est dans cette situation-là en ce moment. Et je vous le dis franchement, je vais peser mes mots, mais on a peur de cette situation-là. On a peur particulièrement dans la région de Montréal que ce soit un peu comme le calme avant la tempête. Alors, je pense qu'on doit prendre ça en considération dans nos grandes décisions qu'on va avoir à prendre dans les prochains jours. Bon, maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles. Puis, bonnes nouvelles pour être capable de travailler sur les variants. Il y a quelqu'un qui me disait que la vaccination, c'était un peu notre arme de diminution massive. Et la vaccination, ça nous permet de baisser notre niveau de risque, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour être capable de contrôler la contagion. C'est pourquoi, dans les endroits où les variants sont le plus présents, comme je mentionnais il y a quelques minutes avec Montréal, c'est pour ça qu'on identifie, qu'on intensifie notre vaccination. Alors, quand les gens nous demandent pourquoi on en fait plus à Montréal qu'ailleurs, ben c'est justement pour ça. Et on a décidé, grâce à une belle collaboration des pharmaciens, d'accélérer leur contribution dans le processus de vaccination. En fait, les pharmaciens, on voulait travailler avec eux au début d'avril et on va accélérer cette période-là d'au moins 2 semaines. Alors, les gens vont pouvoir se faire vacciner en pharmacie. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que non seulement les premières plages de rendez-vous vont être disponibles en pharmacie à compter du 15 mars, mais on a finalisé, pas plus tard que ce matin, avec l'Association des pharmaciens propriétaires, qu'il y aurait 350 pharmacies qui seraient disponibles sur l'île de Montréal pour prendre des rendez-vous à compter du 15 mars. C'est une très, très bonne nouvelle. Et les lieux, en détail, là, vont être dévoilés dans les prochains jours. Et dans les prochaines semaines, dans les semaines qui vont suivre, bien, c'est sûr que le principe de travailler avec les pharmaciens va être étendu dans les autres régions du Québec. Bon, je veux bien expliquer aux gens, là, puis premièrement, je comprends qu'il y a eu une rumeur qui a circulé qu'on allait travailler avec les pharmaciens. Les gens ont déjà commencé à appeler dans les pharmacies. Les propriétaires me disaient ce matin, s'il vous plaît, attendez le 15 mars. Là. Alors, l'offre des pharmaciens, elle est complémentaire à notre offre. Ça va être les mêmes âges, les mêmes catégories de priorité. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'attendre. Vous pouvez toujours appeler votre pharmacien. Je ne vous dis pas de ne pas l'appeler, mais de ne pas l'appeler pour un rendez-vous. Attendez, s'il vous plaît, le 15 mars. Puis, on vous reviendra là dans les prochains points de presse de la bonne façon de fonctionner avec les pharmaciens. Je pense que c'est important de souligner que c'est une première dans l'histoire de la vaccination au Québec. On a eu la chance de travailler avec eux lors de l'influenza l'automne dernier, grâce à ce qui avait été mis en place par ma prédécesseur, Mme McCann, qui a eu cette vision-là l'an dernier de préparer le fameux projet de loi qui nous a permis de travailler avec eux l'automne dernier, puis d'être capable pour nous d'avoir cette entente-là aux pharmaciens de venir. Il y a plus de 1 400 pharmaciens propriétaires qui vont venir nous aider dans ce processus de vaccination de masse. Puis je te l'ai souligné que c'est un élément excessivement important dans notre stratégie qu'on accélère particulièrement pour nous donner un coup de main à Montréal. Bon, maintenant, un autre point sur la vaccination régionale. Je pense que les gens comprennent maintenant qu'il est peut-être normal, peut-être pas toujours acceptable, mais normal qu'on ne soit pas rendu au même âge, aux mêmes endroits. Puis chaque région a sa situation épidémiologique et au nombre de vaccins qu'elle reçoit, mais aussi, puis là je pense à mon petit coin, à moi, la Montérégie, bien en Montérégie, ils ne sont pas rendus, eux autres, à 70 ans comme on est à Montréal, parce que la situation épidémiologique est différente, parce qu'ils ont moins reçu un peu de vaccins parce qu'on a décidé de les concentrer dans l'épicentre, mais ils n'ont pas encore terminé de vacciner leur RPA. Alors donc, c'est important de comprendre que la Montérégie va aussi aller à 70 ans, parce que j'entendais des bons commentaires ce matin de certains commentateurs, mais il faut comprendre que la situation est un petit peu différente dans certains endroits. Puis on le sait en Montérégie, moi je le sais, il y a plus de RPA, donc on doit finir ces priorités-là avant de passer aux autres catégories. Bon, maintenant, les autres régions ne tarderont pas non plus à intensifier la vaccination parce que, et M. Paré pourra nous en parler, on va avoir des livraisons importantes qui sont prévues dans les prochaines semaines. Peut-être un petit rappel sur notre première grande journée de vaccination de masse, M. Paré. Je pense que, oui, on a eu de petits pépins, on a eu des enjeux, puis je pense qu'il normal dans une première journée d'avoir des ajustements, mais j'aimerais devant vous, puis je pense au nom des Québécois, de rappeler comment nos équipes ont fait un excellent travail. De se préparer pour cette vaccination de masse-là, puis d'être capable. Moi, j'ai vu des gens qui ont attendu un peu hier, puis ça, on pourra en parler là, de toutes les corrections qu'on est en train d'adopter, surtout dans nos grands centres. Mais je pense qu'il y a des ajustements sur le terrain que Daniel pourra peut-être expliquer au besoin. Donc, mais une chose que j'aimerais, par exemple, dire là, pour ceux qui prennent des rendez-vous, parce qu'on me disait tout à l'heure que ça va déjà mieux dans nos grands centres, particulièrement pour les personnes âgées, de ne pas arriver trop tôt pour votre rendez-vous. Je sais que vous ne voulez pas le manquer, là, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre vaccin est réservé et au lieu d'attendre une heure et demie, arrivez donc 5-10 minutes avant votre rendez-vous et votre vaccin y est gardé pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et par contre, j'insiste, ce sont des centres de rendez-vous. N'arrivez pas sur place sans rendez-vous. Vous faites attendre les autres pour rien et il faut vraiment avoir la discipline de passer soit par l'Internet ou par le téléphone, mais de vous prendre un rendez-vous. Et on demanderait aussi, parce qu'on a vu le cas souvent hier, il y avait plusieurs accompagnateurs d'une personne âgée pour tenter de se justifier d'avoir un vaccin. En même temps, c'est un accompagnateur par personne et si la personne a plus de 70 ans. Bon, maintenant, on donnera, le dernier point que je ferai, c'est qu'on donnera, comme prévu, le rendez-vous pour la deuxième dose sur place. Et je vous demanderai d'être un petit peu flexible, parce que je voyais des gens hier qui disaient, « Bon, moi, je ne peux pas cette journée-là, j'aimerais mieux l'autre journée. » Bien, je vais vous dire, 7 millions de rendez-vous à placer, là, deux fois, je vous demanderai d'accepter le rendez-vous qui vous est donné, s'il vous plaît, parce que ça fait pas mal de logistique pour mon collègue ici. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur le passeport vaccinal. Je n'avais jamais réalisé que ça ferait tout un débat, la réponse que j'ai donnée à votre collègue la semaine passée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je crois qu'il est important de rappeler là, l'objectif de la preuve de vaccination. En fait, ce que j'ai dit, puis je vais le redire pour que ça soit très clair, c'est seulement une opération numérique du registre de vaccination qui existe déjà. Il n'y aura pas, là, comme certaines personnes ont voulu insinuer, d'intrusion dans la vie des gens. Là. C'est rien de nouveau. Là. Je l'ai expliqué en point de presse, puis j'ai peut-être pas été assez clair, mais on a déjà remis une preuve vaccinale aux gens quand ils voulaient prendre l'avion. Tout ce qu'on fait, c'est de faire ça et de le rendre digital. Alors, juste mettre les choses au clair, là. C'est pas plus que ça. Puis on va travailler, comme le fait mon collègue Éric Kerr, à rendre le gouvernement plus digital, plus moderne. Puis on veut le faire avec le vaccin, la même chose. Maintenant, je termine sur les mesures du après le 8 mars. Bon, je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on va annoncer demain, mais on ne répondra pas. On répondra demain, puis si vous insistez, je vais vous dire, je vous l'avais dit, on répondra demain. On a voulu prendre un petit peu plus de temps, comme on l'avait fait il y a quelques semaines, parce que je pense que c'est important d'attacher tous les fils et la situation évolue très rapidement. Alors donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une journée de plus. On vous donnera tous les détails demain. Few words in English.
OK. Bon, ben, les mesures de la semaine de relâche, ça va attendre un petit peu. Donc, on ne saura pas encore avant quelques heures, peut-être quelques jours, on verra. On va tomber en zone orange pour certaines des régions, à tout le moins, où ça va bien. Est-ce qu'on va tomber en zone orange alors qu'actuellement, on est en rouge?
Parce qu'il y a beaucoup de régions où ça va très bien.
Mauricie, centre du Québec, ça va bien. Québec, ça va bien. Chaudière-Appalaches, ça va bien.
Le Saguenay, ça va bien.
Ouais. Mais Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux autres sont en orange déjà. Oui, voilà. Okay. Mais il y en a une quatrième, par contre. Chaudière-Appalaches, l'Estrie. Il y a du monde en Estrie qui nous écoute. Et ils ont hâte de savoir, eux autres, si ils vont pouvoir tomber en zone orange parce que la situation est pas mal maîtrisée en Estrie
parce
également.
Parce qu'au cours des 7 derniers jours, il y a eu 171 cas.
Mais en moyenne, des nouveaux cas en Estrie, je pense que c'est grosso modo entre 20 et 30 par jour.
Hein,
c'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Fait que, on va voir, on va rester à l'écoute pour ça. Qu'est-ce que tu retiens, ma chère Valérie, de ce point de presse jusqu'à
maintenant? C'est au niveau des variants, vraiment. Puis quand on regarde les variants, aujourd'hui, il y a 137 cas qui sont confirmés. Il y a 1095 cas suspects. Mais des 137 cas confirmés, il y en a 85 qui sont à Montréal. Donc, quand il dit c'est le calme avant la tempête et qu'il a peur pour Montréal, bien, on peut comprendre. Et c'est 85 cas du variant britannique dans ce cas-ci.
Tu dis 187 cas de
137 cas confirmés.
Oui.
De ce nombre-là, il y en a 85 qui sont à Montréal.
Et combien qui sont encore en analyse?
Il y en a 1095 qui sont en analyse, mais c'est 39 de moins qu'hier. Parce qu'hier, on était un peu plus élevé.
Bon. Et il y avait comme un petit avertissement au début, hein, quand il a dit, écoutez, la courbe de la souche ancienne, ça descend, le nombre des cas descend, mais le nombre de cas de personnes atteintes d'un variant, lui, augmente. Fait que ça s'annule, ça forme un plateau, mais c'est un plateau qui est un petit peu trompeur. Et là, il a rajouté, il a dit, honnêtement, ça nous fait peur. On se demande si c'est pas le calme avant la tempête. Ça va influencer les décisions importantes qu'on a à prendre dans les prochains jours.
Exact. Parce que là, les gens se font vacciner. Et pour certaines personnes âgées, on se dit, bien là, on va pouvoir commencer à voir notre monde. Mais ça ressemble pas à ça. Puis en plus de ça, il a dit que tous on fait le criblage de tous les cas positifs.
Oui,
donc,
oui.
On est à 12 à 15 de variants là, présentement. Mmh, mmh.
Bon, il a confirmé l'information qu'on avait sur le début de la vaccination en pharmacie à partir du 15 mars, sauf que c'est pour un nombre beaucoup plus important.
Oui.
Moi, hier, on me disait 50. J'aurais dû dire plus de 50, mais finalement, c'est 350. Mais il dit que ça s'est réglé dans les dernières heures, le chiffre de 350 sur l'île de Montréal.
Sur l'île de Montréal,
c'est uniquement sur l'île de Montréal pour commencer. Et ils vont dévoiler l'identité de ces pharmacies, de ces 350 pharmacies dans les prochains jours.
Et là, pas tout de suite. Surtout.
Non, c'est ça. Là, il est revenu sur l'attente, effectivement. Il y avait un petit message pour sa clientèle électorale en Montérégie. Là, on précisera ça un petit peu plus tard parce que la période des questions commence.
Être sur place et d'autres via Zoom par la suite. Donc, première question, François Carabin, Journal Métro.
Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, vous avez fait allusion à quelques pépins hier dans la stratégie de vaccination de masse. Vous avez vu, comme moi, les temps d'attente pour certaines personnes qui désiraient se faire vacciner. C'est pas sans faire penser aux lignes d'attente qu'on avait eues dans les tests de dépistage cet été. Donc, quels ajustements vous comptez apporter dans les prochaines semaines si on prend en compte qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir se faire vacciner une fois qu'on va passer aux 70 ans et plus, etc.?
Je peux passer la parole à M. Paré, puis peut-être compléter si nécessaire.
Oui, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est un des groupes les plus difficiles que présentement nous avons à vacciner, c'est les personnes qui sont âgées, qui ont des défis, pour certains, des défis de mobilité. Fait que dans le fond, nos apprentissages qu'on a vus dans la journée d'hier, Ça a été justement, comme Monsieur Dubé le mentionnait, beaucoup de gens qui se sont présentés d'avance. Ça fait partie, je pense, de nos coutumes de se présenter en avance à nos rendez-vous. Mais on a choisi ici au Québec de procéder à la vaccination de masse par rendez-vous pour éviter ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien expliquer encore nos règles. Fait que ça sera la première chose, bien expliquer comment qu'on fonctionne. Bien sûr, on l'a vu dans un de nos sites, notamment au Stade olympique, rajouter des chaises roulantes. Fait que le CIUSSS là, a été quand même assez proactif là, par rapport à ces éléments-là. Aussi là, pour s'assurer là, d'avoir des endroits là, de repos là, pour nos personnes âgées. Et aussi au niveau des rendez-vous, comme on parlait tantôt, on veut s'assurer là, encore là d'être capable de donner des rendez-vous là, plus rapidement. Fait que, plus aussi que les gens vont s'inscrire sur le site Internet. Beaucoup d'informations sont inscrites dedans. Ça nous permet aussi d'aller plus vite. Fait que c'est pour ça que quand on parle des groupes des prochains groupes prioritaires qui sont plus jeunes, qui vont probablement utiliser plus le site Web, plus d'informations arrivera. Donc, on va sauver du temps aussi lors de l'inscription des gens lorsqu'ils viendront sur le site.
Merci. Monsieur Dubé, vous n'avez rien à ajouter?
On est en bonne main.
Pour poursuivre, je vous avais posé la question la semaine dernière, M. Dubé, sur la vaccination à domicile. Mm-hmm. Vous étiez dit ouvert à étudier certains mécanismes qu'on utilise dans d'autres pays.
Ouais.
Est-ce que c'est exclu pour le moment, la vaccination à domicile? Est-ce que c'est toujours évalué au gouvernement?
Oui, on a avancé, puis j'apprécie beaucoup de pouvoir répondre à la question aujourd'hui. En fait, je dividerais ça en trois, puis peut-être avec les pharmaciens, en quatre catégories. C'est sûr que pour les personnes âgées, je le dis de façon générale, on a eu une approche très vaccination importante avec les RPA puis les CHSLD. Ça, c'était la première chose à faire. Il faut se rappeler que la grande majorité de nos personnes âgées sont autonomes puis peuvent se déplacer. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Même quand on va on a terminé les RPA et les CHSLD. Les gens peuvent venir, puis on le voit, là, hier, 85 ans et plus, vous avez vu les gens qui étaient dans les différents centres. Donc, il y a une grande majorité des gens qui peuvent se déplacer. Il y a deux ajouts qu'on est en train de faire. On a recommuniqué, comme j'avais dit qu'on allait le faire, on a recommuniqué avec tous nos établissements, donc les CIS et les CIUS. On leur a dit, vous allez nous sortir les listes de personnes qui, soit... ce qu'on appelle le ISO-SMAF, le taux de dépendance qu'ils peuvent avoir pour voir s'il y en a qu'on pourrait aider avec du transport. Et ça, on va travailler avec les organismes communautaires. Mais en plus, ceux qui peuvent vraiment pas se déplacer, on est en train de le quantifier, puis je dirais qu'on va y aller par région, donc Montréal, pour être capable d'identifier combien de personnes on devrait se rendre sur place pour aller les vacciner. Alors, on est en train de finaliser ça, mais ce qu'on a demandé à M. Paré, c'est de ne pas changer le focus de la vaccination de masse, puis de travailler sur ces personnes-là. Alors, moi, je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, puis je vous donne un exemple, puis Daniel pourra compléter, parce qu'on est en train de terminer nos RPA, puis nos RPA, on les fait avec des unités mobiles, on va sur place. Ces mêmes unités mobiles-là, quand on aurait fini avec eux, on irait pour se déplacer dans des endroits où on pourrait vacciner les gens chez eux. Fait qu'en résumé, je veux rassurer les gens qui ne pourront pas se déplacer. Nos contacts qu'on appelle SAPA, là, qui sont dans chacun des établissements, sont en train de finaliser ces listes-là de gens qui vont soit se faire offrir du transport ou que nous, on va se déplacer. Puis mon quatrième commentaire, c'est avec les pharmaciens. Les pharmaciens là, qui vont prendre la mesure de la vaccination dans les prochaines semaines, bien, eux aussi connaissent leurs clients qui pourraient avoir des difficultés ou ils font de la livraison. Alors, tout ça va devenir complémentaire dans les prochaines semaines. Puis, ces gens-là vont être très, très bien traités. Puis, au besoin, on va se rendre jusque chez eux.
Merci.
Merci. Bon. Nous allons maintenant passer au micro 1, s'il vous plaît, préciser votre nom et média, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Naïla Bendali de Radio-Canada. Une question pour vous, Monsieur le ministre, au sujet du délestage. Le premier ministre qui affirmait hier sur les ondes de Radio-Canada qu'il n'y avait pas eu de chirurgie urgente où c'était question de vie ou de mort qui a été reportée, que les balises pour les traitements de cancer avaient été respectées, même si on dépiste moins quand même les cancers. Donc, est-ce que vous avez les mêmes informations? Vous êtes capable d'affirmer que le délestage n'a pas causé de mort alors qu'il y a au moins un cas médiatisé là, d'une jeune comédienne qui, selon sa famille, est décédée alors qu'elle était sur une liste d'attente?
Bon.
Écoutez, la réponse que le premier ministre a donnée, elle est exacte. Ce qu'il faut dire, puis on déplore tout le cas de la jeune comédienne, là, parce que chaque cas est un cas d'espèce. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail d'un cas. Mais ce qui est arrivé aussi, puis j'en ai parlé beaucoup avec le premier ministre, c'est qu'il y a eu des gens qui, parce que soit qui avaient peur de venir à l'hôpital ou qui avaient des... C'est sûr que les cas urgents, on ne les a jamais refusés. Mais il y a des cas qui n'étaient peut-être pas urgents il y a 6 mois, qui, parce que les gens n'ont pas voulu venir ou peu importe, qui sont devenus plus urgents. Alors là, c'est là qui est important pour nous, puis j'en profite là, pour vous poser cette question-là, de dire aux gens qui nous écoutent, écoutez, là, on n'a aucune raison en ce moment de ne pas traiter les cas urgents. On n'a aucune raison. Alors, s'il y a des gens qui avaient des craintes, puis que malheureusement, ils ont peut-être attendu parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital, puis j'en ai donné l'exemple, si vous me permettez, vendredi dernier ou jeudi dernier, je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis une des raisons pourquoi je suis allé sur place, c'est pour dire aux gens, inquiétez-vous pas, là, nos hôpitaux, ils sont sécuritaires. Vous pouvez prendre vos rendez-vous avec les médecins spécialistes. Donc, je vous dirais, oui, il y a peut-être des cas qui sont devenus urgents par la suite, mais on va les traiter et on va continuer de les traiter, tous les cas urgents.
Je vais revenir sur la région de la Montérégie qui vaccine peut-être moins rapidement ou pas au même rythme que Montréal et Laval. Ouais. Le CIS qui nous dit, bon, on reçoit moins de vaccins dans cette région-là, mais pourquoi ne pas la prioriser alors que c'est à côté de Montréal, surtout avec les variants, il y a eu des cas là, pas loin de...
C'est vraiment... Il y a deux raisons. La première raison, je l'ai expliqué tout à l'heure, là, il y a la structure du nombre de RPA. Vous demanderez à M. Paris, là, il pourra vous le dire, on ne peut pas vacciner aussi rapidement dans un centre, dans une RPA où on se déplace avec une unité mobile puis qu'on prend une personne à la fois, qu'on le fait dans un centre de masse. La Montérégie, je la connais, cette région-là, il y a beaucoup plus de RPA qu'ailleurs. Faites juste penser à ce qu'il y a le long du fleuve. Il y en a sur le bord du pont Champlain. Donc, il y a cet enjeu-là. Le deuxième enjeu, qu'on ne se le cache pas, on a dit, dans les premières semaines, on a mis plus de vaccins à Montréal. On ne se le cache pas, là. On était très transparents. Il est là le feu. C'est là l'épicentre en ce moment. Alors, on le dit, mais on va s'ajuster au fur et à mesure. Mais en ce moment, il faut vraiment donner un coup sur Montréal.
Nous allons maintenant passer aux questions via l'application. Donc, la première personne à poser sa question, ce sera Claudie Côté de TVA Nouvelles.
Bonjour à vous trois. J'aimerais vous entendre sur le vaccin AstraZeneca. On a eu la confirmation qu'on allait recevoir des doses de vaccin dès demain. Là, je pense plus de 120 000 doses de vaccin qu'on va recevoir au Québec. Donc, quelle est la stratégie du Québec pour la vaccination avec AstraZeneca? Il y a une date de péremption sur les vaccins qui nous ont été envoyés. Il faut les administrer avant le 2 avril. Et on sait là, que... le vaccin est sûr, mais comment qu'on ne l'administre pas aux 65 ans et plus. Donc, comment ça va se passer ici au Québec?
Je diviserais votre question, Mme Côté, en deux. Là. Commencez par le docteur Arruda pour voir les opinions qu'on va recevoir, notamment de la SIC ou pour voir. Puis après ça, on parlera de l'enjeu de délai de livraison avec M. Paré. Voulez-vous commencer, Horace?
Oui, peut-être vous dire que le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été autorisé. Quant à son usage, on attend un avis du CIQ, notre comité d'immunisation du Québec, qui va regarder la littérature. Il est homologué pour les gens aux 18 ans jusqu'à plus tard. Certaines personnes, notamment certains groupes, ont arrêté à 65 ans, mais on va y aller en fonction, à notre avis, de les recommandations du cycle qu'on va avoir. Je pense qu'actuellement, dans le contexte de pénurie de vaccins, l'arrivée de ce vaccin-là, qui est plus facile aussi à déplacer, à notre avis, va nous permettre d'augmenter la quantité de personnes protégées au Québec avant d'avoir une troisième vague ou de voir la montée des variants. Fait que nous, on reçoit ça très positivement. C'est un vaccin sécuritaire. C'est un vaccin qui répond aux critères de l'OMS pour ce qui est de l'utilisation d'un vaccin contre la COVID-19. Maintenant, on attend l'avis du CIC pour nous dire dans quelle sous-population il serait le mieux indiqué dans le contexte du Québec.
Merci. Puis peut-être, Daniel, sur les délais.
Et d'un point de vue le plus logistique en termes de délais, oui, nous allons recevoir les vaccins. Mais comme Dr Arruda le mentionne, aussitôt que le comité d'immunisation du Québec va vraiment nous donner des recommandations sur l'usage du vaccin, nous, on va adapter notre stratégie. Vous savez, on le fait depuis le début de la campagne, adapter notre stratégie selon l'arrivée des vaccins ou selon les types de vaccins qu'on reçoit. Et aussitôt que l'avis du comité d'immunisation du Québec sera reçu, je vous garantis qu'il va être administré et il va être administré avant la date de péremption.
OK, on continue d'écouter ça. Luc, tu es là?
Oui, Bernard.
Bon, commentaire.
Ben, mon premier commentaire, c'est l'ouverture de son point de presse. Je l'ai trouvé. Ouh!
Mm-hmm.
Et quand il dit, je trouve pas de meilleur mot que de dire, on a peur de la situation.
Oui.
Ouh! Et j'ai trouvé aussi, peut-être qu'il écoute les mêmes médias que moi, mais hier, le docteur Fauci a dit exactement, l'Américain a dit exactement ce qu'il vient de dire concernant le plateau. Il disait, faites attention, ce plateau-là, là, c'est un piège. Parce que, effectivement, une courbe monte, celle des variants, l'autre descend. Alors, c'est pourquoi la course contre à la vaccination va continuer. Mais là, je suis très heureux aussi, Bernard. 350 pharmacies,
ben
tu m'avais
oui.
dit 50.
Mais je t'avais dit 50 parce qu'il m'avait dit 50. Mais 50, il faut croire que c'était en date d'hier soir. Et c'était un minimum parce qu'il a dit que dans les dernières heures, il avait réussi à en signer 350. Alors, tant mieux, tant mieux.
Non, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Là. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que tous les
quartiers... Tout sur l'île de Montréal, par
contre. Ça veut dire que tous les quartiers, un peu partout, il y a des pharmacies toujours. On va être capable de se rendre là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis l'autre bonne nouvelle, ben c'est quand il a répondu à la question sur les vaccins à domicile. Les personnes âgées qui sont moins autonomes, ne se sentent pas suffisamment confortables ou autrement... Ils vont mettre en place, oui, ce service-là. D'abord, ils vont leur offrir de l'aide pour le transport. Hein? Et là, pendant que ça se fait, les pharmacies, entre autres, et ça, c'est bien important, les pharmacies, ils savent qui a 85 ans, qui est leur client, puis ils sont tout à fait capables, puis ils ont le droit d'appeler, puis dire, vous êtes-vous fait vacciner, voulez-vous qu'on prenne un rendez-vous? Enfin, c'est ce que j'ai compris quand il a dit qu'il allait... procéder à une identification de ceux qui ne peuvent pas se rendre ou qui ne se sentent pas capables de se rendre dans un centre massif de vaccination. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle.
Ouais.
Alors, pour ce qui est de la semaine prochaine,
Ben,
M. Legault nous le réserve pour demain soir à 17h, d'après ce que je comprends.
Oui.
Que vont-ils faire?
Tu vois que...
Il a dit en ouverture. Nos décisions dans les prochains jours vont beaucoup... tenir compte de cette réalité-là, qu'on est rendu à 12 à 15 % des variants là, dans notre mix, comme on dit.
Ouais. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, hey boy, pas sûr que les zones oranges vont basculer en... C'est-à-dire les zones rouges où c'est sous contrôle vont basculer en zone orange.
Mais ça paraît de plus en plus, Bernard. Quand on regarde les résultats qu'on nous rend publics quotidiennement, Montréal, Laval, Montérégie, Québec. Après ça, là... Évidemment, il y en a d'autres.
Ah, mais il n'y a pas personne. Luc, il n'y a pas personne qui pense que Montréal, Laval, Montérégie, puis les Couronnes, Laurentides, Lanaudière pourraient virer au orange. C'est plus.
Non, je comprends, mais ce que je veux dire, Bernard, c'est qu'ils vont peut-être, justement, dans les régions, laisser aller du lousse un peu. Parce que, à l'heure actuelle, faut bien le comprendre, la pandémie est à Montréal. Elle est à Montréal, puis ses banlieues éloignées, que ce soit Montérégie, Couronne-Nord, tout ça, c'est là qu'elle est, la pandémie. Et un peu, évidemment, dans la région de la capitale nationale. Alors, je pense qu'ils vont certainement songer à des régions comme la Côte-Nord. Où il y a
la Côte-Nord, c'est déjà orange.
Ah, c'est déjà orange.
Oui, c'est déjà orange. Les quatre régions où c'est sous contrôle, qui pourraient basculer en orange, c'est Québec, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, puis Mauricie, centre du Québec. Ces quatre régions-là, Luc, là, ils sont stables.
Juste au bord,
ils sont très, très stables. Tu sais, Chaudière-Appalaches, je te dis ça de mémoire, là, mais c'est genre de 0 à 10 cas par jour en moyenne. Mauricie, centre du Québec, si je me trompe pas, c'est entre 10 et 20 par jour en moyenne. Québec, je pense, c'est entre 20 et 30. Puis Estrie, c'est à peu près la même affaire. Là. Tu sais, c'est plus ou moins 10 là, en moyenne par jour. Puis c'est comme ça depuis une semaine, puis même dans certains cas depuis plus qu'une semaine. Fait que c'est sûr que les gens de ces régions-là, ils se disent, ben là, on a mérité de virer orange, tu comprends?
Avant de terminer, moi, je peux pas m'empêcher de souligner que parfois, il y a des choses qu'on s'attend qui vont arriver, puis mon Dieu, elles arrivent.
Oui.
Le nombre de décès chute de façon très, très marquée.
Oui.
Et ça, c'est le résultat des CHSLD, des RPA, puis du début de la de la vaccination massive.
En passant, Luc, en passant, parce que ça fait débat, quand le Québec a décidé d'espacer la première et la deuxième dose pour donner le plus de premières doses au plus grand nombre possible, tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué.
Dont moi.
Bon, ben là, t'as vu que non seulement c'était la bonne décision, mais que la Colombie-Britannique a décidé d'imiter le Québec. Ils vont même plus loin, eux autres. Le Québec, c'est 90 jours maximum entre la première et la deuxième dose. La Colombie-Britannique a annoncé qu'ils seraient prêts à attendre jusqu'à 120 jours parce qu'ils veulent, vacciner le plus possible, donner le plus possible de premières doses.
Mais je ne peux pas m'empêcher de te répondre que moi, quand j'entends les plus grands spécialistes, ils disent toujours, on n'aime pas ça, ce jeu-là. On n'aime pas vraiment ça. Bernard, 120 jours,
si
c'est
on
beaucoup,
avait,
là.
Si on avait le choix, mais t'admettras avec moi, c'est toi qui viens de le dire, le fait qu'on ait vacciné le plus grand nombre de personnes en CHSLD et en RPA, fait
mais
en sorte qu'on
cas,
a...
ils reçoivent les deux rapidement, là, Bernard.
Non, ils ont pas reçu une deuxième dose, pas en tout, là. Il y a personne qui a reçu une deuxième dose encore dans RPA.
Il y en a, Bernard. Oui, il y en a.
Ben, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Dans un CHSLD et dans un RPA, les deuxièmes doses... Ah, ben là, tu me l'apprends. Honnêtement, là, moi, j'ai pas entendu parler de RPA ou de CHSLD qui ont reçu une deuxième dose. S'il y en a, il y en a pas beaucoup, là, Luc. Parce que, justement, on a voulu donner une première dose au plus grand nombre possible. Puis ça s'avère...
Non, mais tu sais, je suis pas noir et blanc, là, Bernard. Je constate simplement que les concepteurs, les inventeurs du vaccin maintiennent que c'est mieux au 21e jour.
Ah, mais Luc, ça, je suis d'accord.
Non, mais là, je veux plus loin. Là, on dit, ben, 6 semaines, c'est pas pire. Mais quand on est rendu qu'on étire à 90 jours, puis moi, j'ai des inquiétudes.
C'est sûr que tu prends un risque.
Ben moi, je trouve qu'on en a pris beaucoup depuis un an, puis je suis pas trop fort sur le risque.
Ouais,
on arrive au bout du marathon. S'il vous plaît, là, prenons pas trop de risques.
Oui. En même temps, Luc, le risque, c'est tu vaccines moins, puis tu prends le risque que le plus grand nombre, plus grand nombre de décès puis d'hospitales. Il n'y a pas de choix facile dans cette crise.
Il
n'y
a pas de choix
facile.
Enfin, on s'entend là-dessus. Il n'y a pas de choix facile dans ça. Mais je reviens avec ça. Réjouissons-nous. Ça commence à marcher pas mal fort.
Ouais.
Les décès disparaissent des statistiques, ou presque. Il y en a eu 8, là, c'est 8 de trop, mais c'est pas mal loin des 35-40 qu'on avait il n'y a pas longtemps.
Donc seulement un décès dans les dernières 24 heures.
Cette stratégie d'avoir été vers les plus âgés, les RPA, les CHSLD, les travailleurs de la santé, c'était la bonne.
Très bien. On s'en va à la pause. Mon cher Luc, on se reparle un peu plus tard?
À tantôt.
Après la pause, donc, on va à Lise Ravary. Puis elle va parler, Lise, si je comprends bien, là, de cette décision de François Legault. Il en a parlé dans l'entrevue qu'il a donnée avec le collègue Louis Lacroix. Hein, dans l'entrevue qu'il a donnée à Louis Lacroix, le premier ministre dit, nous autres, on va nationaliser. On va acheter. L'État va acheter les CHSLD non conventionnés. En fait, c'est pas tout à fait exact. Je me reprends tout de suite. Ce qu'il a dit, c'est que les CHSLD non conventionnés vont devenir des CHSLD conventionnés. Donc, en d'autres mots, les personnes qui travaillent dans ces CHSLD-là, qui ne sont pas des employés de l'État, vont devenir des employés de l'État. Donc, il va nationaliser, si on peut dire, les employés. Mais ce que je comprends, c'est que la bâtisse, elle, va rester entre les mains des propriétaires privés. Ça, c'est plus juste. Ce que je viens de vous dire là, c'est exactement ce qu'il a dit. Lise Ravary va commenter là-dessus dans un instant.